Bienvenue sur le podcast Écrire pour soi, où on parle d'écriture et de motivation. Je m'appelle Camilla Morel et je suis autrice de romans imaginaires et libraire. Dans ce podcast, je souhaite vous appuyer dans l'écriture de votre roman, mais surtout vous aider à avoir confiance en votre écriture. Vous pouvez me retrouver sur Écrire pour soi chaque semaine pour faire le plein de motivation et d'assurance, mais aussi sur le Instagram Camilla Morel avec un zéro pour le haut. Le point d'honneur du podcast, trouver le plaisir dans sa passion, en se déculpabilisant. Et maintenant, n'hésitez pas à vous installer confortablement. Je vous souhaite une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine et que ça se passe bien pour vos projets. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour parler de soumission, mais cette fois, ça va être un petit peu différent. Je vais pas vraiment développer dans mes sentiments tout ça, qu'est-ce que j'ai ressenti quand j'ai reçu mes refus, quand j'attendais les réponses. Cette fois-ci, on va vraiment parler plutôt du processus de soumission. Donc, je vais vous donner comme mes conseils, comment j'ai fonctionné, j'ai décidé à qui j'allais envoyer mon manuscrit, comment je m'y suis prise, comment j'ai formaté mon manuscrit, qu'est-ce que j'ai mis dans le corps de mail, qu'est-ce que j'ai mis dans mon dossier de soumission, tout ça. Donc, j'aborde toutes ces questions-là aujourd'hui. Petit disclaimer, c'est la première soumission que je fais, donc je ne sais pas si j'ai fait ça vraiment de la meilleure manière possible. Par contre, j'ai quand même suivi la formation LICAR et il y a tout un pan là-dessus. Donc vraiment, il y a un module complet, je crois, sur la soumission. Je suis plus certaine, mais c'est beaucoup de leçons quand même. Et mon dossier de soumission avait été corrigé, on va dire, par un éditeur. Donc depuis là, j'ai comme pu l'améliorer, changer des choses, essayer de le rendre plus clair et tout ça. Et je pense que c'est quand même un bon dossier. C'est sûr que je peux pas être certaine, là, mais je suis satisfaite de ce que j'ai réussi à rendre. Mais voilà, je tenais quand même à vous le dire. Alors, première chose, quand on choisit à qui on veut envoyer. De mon côté, j'ai beaucoup regardé ma bibliothèque. Donc, tous les livres que je lis, que j'aime, souvent ça ressemble un peu au public cible du roman que j'écris. Donc, La Traverse Rêve. Et ça ressemble un peu dans la ligne édito. Pas pour toutes les maisons d'édition que j'ai dans ma bibliothèque, évidemment, mais en grande partie. Et honnêtement, même si j'avais pas de liste écrite avant les soumissions parce que je me concentrais vraiment sur l'écriture et que j'avais pas envie de me mettre à faire des recherches sur quelle maison est ouverte, à qui je vais pouvoir envoyer tout ça, parce que je sentais que ça allait me stresser, j'avais pas de liste écrite, comme je vous dis, mais quand même, je savais un peu dans ma tête là, à qui j'avais envie d'envoyer. Et ben après ça, ben j'ai juste fait quelques recherches de plus pour trouver d'autres maisons que j'aurais peut-être manquées, que je connaîtrais peut-être pas, pour voir s'il y en avait qui m'intéressaient. Et finalement, j'en ai trouvé quelques-unes. Mais en général, c'est vraiment des maisons que je connaissais déjà, que je savais déjà, qui me plaisaient et que j'avais envie de travailler avec. Donc, je ne vais pas forcément les nommer, mais j'ai envoyé au total à 11 endroits. Je crois. Donc, je crois que c'est une petite vague de soumission. J'ai l'impression que certaines personnes envoient à beaucoup plus de gens. Là, c'est sûr que moi, je voulais faire une première vague avec mes premiers choix. Dans quelques temps, je risque de faire une deuxième vague. Et la raison pour laquelle je fais ça en vague, c'est parce que je me dis que je préfère que mes premiers choix répondent en premier. Alors, j'attends un petit peu pour les autres vagues. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui fait ça, je sais que c'est pas forcément conseillé dans le sens que une réponse de ME, ça peut prendre vraiment des mois avant de recevoir. Donc parfois, je me suis fait dire d'envoyer toutes d'un coup au même endroit. Mais je pense que si j'attends juste quelques semaines, c'est pas trop grave. Et ben il y a des gens à qui je pourrais pas soumettre en ligne parce que soit ils veulent juste des manuscrits papier, soit c'est pas encore ouvert. Donc il y a aussi certains de mes premiers choix à qui j'ai pas pu envoyer pour l'instant, mais je compte aller pitcher mon roman à Montreuil. Donc comment j'ai fait les recherches? En fait, j'ai comme juste regardé sur Instagram, là, j'ai comme essayé de trouver d'autres maisons d'édition. J'ai scouté, on va dire, pendant quelques semaines pour essayer de voir qui pourrait être intéressant pour moi, qui aurait comme une ligne édito, qui fonctionnerait avec mon roman. C'est sûr qu'on peut faire des recherches de mots-clés sur Instagram, ça peut aussi être sur Google. Moi, ce qui m'inquiète un peu avec ce genre de recherche, c'est qu'on peut tomber sur des maisons d'édition à compte d'auteur sans s'en rendre compte. Ce serait pas grave dans mon cas parce que je m'en rendrais compte quand ils me donneraient un mail de oui, s'ils me disent Ah, tu dois débourser 5 000, 3 000 $ et tout ça. Pendant qu'on en parle, je vais juste vous dire, si une maison d'édition vous dit oui et vous demande de débourser de l'argent pour être publié, ce n'est pas une maison d'édition à compte d'éditeur, c'est à compte d'auteur, donc c'est vous qui payez tout. Et souvent, ben, eux, ils font même pas de travail éditorial ou de correction sur votre livre. Donc, vraiment un gros red flag, un vraiment immense no-go, n'y allez pas, je tenais à le dire. Moi, c'est ça qui me stressait un peu avec l'idée de faire des recherches, mais au fond, s'ils nous disent oui et qu'ils nous demandent de débourser de l'argent, tant qu'on dit non, il n'y a pas de problème en tant que tel, donc c'est pas tant grave. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait des recherches sur Instagram, sur Google, mais ce que je vous conseille, c'est vraiment d'observer tout ça pendant votre écriture, même avant votre soumission, comme ça vous allez avoir comme une bonne idée d'à qui vous voulez envoyer déjà. Ce qui est vraiment important quand on envoie un manuscrit, c'est d'envoyer à une maison d'édition pour qui la ligne d'édito est alignée. Donc, si vous écrivez de l'adulte, envoyez pas à une ME qui fait du young adult. Si vous écrivez de l'imaginaire, envoyez pas à une maison de romance, ce genre de détails. Par contre, je sais que les lignes édito, souvent, c'est un petit peu plus pointilleux que ça. Ça, je vous avoue que c'est encore même flou dans ma tête à moi, donc je pourrais pas vraiment vous aiguiller là-dessus. Et je sais que beaucoup d'éditeurs envoient des noms types avec comme refus. Ça ne correspond pas à notre ligne édito. Et honnêtement, de ce que j'ai vu avec des auteurs qui ont reçu ce genre de refus, ça semble souvent être un genre de prétexte en fait pour pas développer davantage. Donc je pense que quand on reçoit ce genre de refus, ça veut pas nécessairement dire que ça va pas dans la ligne édito, mais parfois ça peut vouloir dire oh, on n'a pas lu votre manuscrit, ça nous intéressait pas, ça peut vouloir dire c'est pas ce qu'on a envie de publier en ce moment, ça peut vouloir dire plein de choses de ce que j'ai compris là. Donc c'est comme dur à naviguer, je trouve, cet aspect-là. Mais vraiment, le plus important, je pense, à la base, ça va vraiment être de faire attention là, à choisir au moins une maison d'édition qui publie votre genre et pour votre public cible. Pour vérifier ça, moi, j'ai fait des recherches sur les ME en particulier. Donc, j'allais voir leur site à eux, je regardais les titres qu'ils publiaient, je lisais des résumés pour voir si ça pouvait coller un petit peu avec mon roman et je regardais évidemment les couvertures, ça aussi ça peut aiguiller. Et aussi, ben souvent, s'ils ont les soumissions ouvertes, ils vont avoir une page avec comment nous soumettre votre manuscrit et il va avoir des infos sur ce qu'ils recherchent. Donc, par exemple, nous, on recherche de l'imaginaire young adult, il y a des maisons que c'est juste ça qu'ils font. Et à ce moment-là, je pouvais envoyer. Il y a aussi des ME qui vont mettre une limite de caractère, donc il faut faire attention à ça aussi. Vraiment, ça va être d'élargir vos horizons en premier lieu. Donc, regardez à qui vous pouvez envoyer, faire une liste. Et après, quand vous avez une liste vraiment grossière, vous allez faire des recherches pour chaque ME, donc sur leur site web, et vous allez voir si ça correspond pour de vrai ou non. Par exemple, moi, dans ma liste, j'avais mis vraiment au pif là, plein de maisons d'édition que je connaissais. Et en faisant des recherches, j'ai réalisé que ben, il y en avait que c'était juste des traductions qu'ils faisaient. Donc, je ne pouvais pas envoyer là. Et c'est OK. Je pense que c'est bien d'y aller vraiment par élimination. Ensuite, deuxième section de l'épisode, comment j'ai formaté mon manuscrit. Ça dépend vraiment des maisons d'édition. Il y en a qui vont demander des formats et des façon de présenter vraiment spécifique. Par contre, il y a comme des choses de base qu'il faut absolument faire, je pense, pour chaque manuscrit de ce que j'ai vu. Mais ça, vous pouvez retrouver ce genre d'informations-là partout sur Internet. Donc, je vous encourage à faire des recherches pour avoir vraiment un visuel parce que là, je vais juste vous parler en audio, donc c'est peut-être pas la chose la plus claire. En tout cas, c'est certain que ça vous prend des alinéas. Donc, à chaque début de paragraphe, il faut qu'il y ait un espace pour que ce soit beaucoup plus aéré votre texte. Il faut qu'il y ait des tirets quadratins, donc pas des petits tirets réguliers, c'est des plus longs tirets. Ça, je pense que ça va être possible pour vous de les automatiser sur Word. Donc, quand vous mettez par exemple deux tirets, moi c'est ça que je fais, ça peut vous faire automatiquement un tiret quadratin. Je saurais pas vous dire les settings exacts, honnêtement, ça fait très longtemps que j'ai fait ça pour l'automatiser sur mon Word, mais n'hésitez pas à faire une recherche sur YouTube pour voir comment automatiser ce genre d'opération-là. En gros, c'est quand j'écris tel caractère, ça me donne tel caractère. Donc, vous avez juste à copier-coller un tiret quadratin dans votre encore. Comme ça, si vous faites deux tirets, vous avez un tiret quadratin. Et pour trouver un tiret quadratin, pas de problème, cherchez ça sur Google. J'espère que c'est assez clair. Si vous manquez d'informations, n'hésitez pas à me contacter sur Insta. Autre chose, il faut que la mise en page soit belle, évidemment. Donc, la typo doit être lisible. C'est sûr que moi, ce que j'ai entendu comme conseil le plus souvent, c'est le Times New Roman taille 12. Donc, il ne faut pas que ça soit trop petit. Taille 11, on m'a dit que c'était trop petit. Et on m'avait dit que Calibri, c'était pas un bon choix. Moi, j'avais pris ça pour mon premier jet parce que j'aime bien avoir une typo un peu plus brouillon en premier jet. Et après, je modifie. Comme ça, on dirait que mon œil est moins habitué à ce que j'écris, on va dire. Et quand j'avais soumis mon dossier de soumission à l'éditeur de chez Licard pour révision, il m'avait dit que Calibri, c'était pas une bonne option. Moi, j'avais comme pas vraiment porté attention à la mise en page. Je pensais pas qu'il allait me faire de commentaires là-dessus. Et c'est ça. Donc, je vous partage cette information-là. Aussi, il m'avait dit que c'est important de changer de page à chaque chapitre. Donc, disons que vous terminez un chapitre vraiment au début d'une page. Vous n'allez pas mettre le chapitre d'après tout de suite après. Vous allez aller à la page d'après. Donc, chaque chapitre commence vraiment au début d'une page. Très important. Ça va être intéressant aussi de mettre une numérotation à vos pages. Personnellement, il y a 8 parties dans mon roman. Donc, à chaque fois que j'avais une nouvelle partie, je mettais partie 8, le titre de la partie. Et sur cette page-là, il n'y avait rien d'autre et je ne mettais pas de numéro de page. Encore une fois, vous pouvez trouver des tutoriels sur YouTube si vous ne savez pas comment. La page titre, j'ai mis manuscrit de Camilla Morel et j'ai mis La Traverse Rêve qui est le titre. J'ai aussi mis mes coordonnées, très important. On me l'a beaucoup répété celui-là. Et sur cette première page-là, j'ai pas mis de numérotation non plus. C'est toujours plus joli quand on fait ça. Et donc voilà ce que j'ai fait pour la mise en page du manuscrit. Mais comme je vous ai dit, ça peut changer d'une ME à l'autre et ça va être vraiment important de vérifier ça. Pour ce qui est du corps de mail maintenant... pour être plus clair, ça c'est vraiment ce que j'ai écrit dans le mail avec les pièces jointes. Donc, j'ai dit qui j'étais, pourquoi j'écrivais ce mail, donc je vous soumets mon manuscrit, nanana. Et je disais dès le début pourquoi j'étais intéressée par cette ME-là, donc pourquoi eux m'intéressaient en particulier, pourquoi j'aimerais travailler avec eux. Pas besoin de faire 1000 paragraphes, j'ai fait juste une ou deux lignes. Et après, c'est sûr que je nomme le projet. Je présente son genre et sa cible et je le résume en une ou deux lignes seulement. Donc, perso, j'ai fait le résumé en une ligne, en une phrase, à moins d'une indication contraire où vraiment la ME demandait un résumé dans le corps de mail. À ce moment-là, j'ai pris mon résumé que j'ai conçu au complet, donc genre 2-3 paragraphes. Aussi, je mentionnais les pièces jointes, donc je disais telle pièce jointe, vous allez trouver telle chose dedans. Et il n'y en a pas 1000, mais il y a le dossier de soumission et le manuscrit, à moins qu'ils demandent qu'on n'envoie pas de dossier de soumission. Et j'ai aussi mentionné que le deuxième tome était en cours de rédaction et que je pouvais faire un synopsis s'ils en avaient besoin. Et pour finir, j'ai dit « Je reste à votre disposition pour tout renseignement, blablabla. » Donc, vraiment, il faut s'assurer de ne pas faire de faute dans le corps de mail. Il faut être très poli, très avenant. Il faut un peu vendre sa salade, donc vraiment essayer de montrer votre projet un tout petit peu, un petit aperçu pour donner envie. Moi, j'ai mis une phrase et je pense qu'elle attise un peu la curiosité, en tout cas j'espère. Donc, je trouvais ça cool à faire. Et j'ai même mis des mots en gras pour attirer l'attention. Donc, par exemple, le titre de mon manuscrit, le genre, sa cible. Surtout si la ME demandait de mettre telle info dans le corps de mail. À ce moment-là, là, je mettais en gras les informations qu'ils avaient demandées. Quelque chose qui est à savoir, c'est que j'ai comme remarqué, en fait, en faisant mes soumissions, qu'il y avait beaucoup de ME à qui on envoyait via un formulaire. Donc, il n'y a pas de corps de mail dans beaucoup de cas. À ce moment-là, tu sais, il va vraiment avoir des encadrés où vous allez pouvoir rentrer vos informations, les informations qu'ils veulent, et souvent, ça va être genre... résumé long, résumé court, qui vous êtes avec votre bibliographie, si vous en avez une, ce genre de choses-là. L'important, ça va être de suivre les instructions, on va dire, et je pense qu'à ce moment-là, vous pourrez pas trop vous tromper. Donc, lisez bien attentivement. Et en dernier, on va parler du dossier de soumission. Ça, c'est une partie qui est difficile pour beaucoup d'auteurs. Moi, j'ai pas trouvé ça trop pire, mais je pense que c'est vraiment parce que j'avais eu la formation Licor et que je me sentais vraiment guidée dans le processus. Donc, pendant la formation, j'avais fait une version 1. Après, j'ai eu plein de commentaires pour améliorer ça. Je me suis occupée de ça et puis j'ai abouti avec une version que j'aimais beaucoup. Donc, moi, mon modèle, c'est que je prends une page de présentation, donc toute une page où j'écris juste dossier de soumission en gros, et j'écris La Traverse Rêve, manuscrit de Camilla Morel. Ensuite, la deuxième page, j'ai comme une partie 1, parce que je divise vraiment en partie pour que ce soit le plus clair possible pour l'éditeur. Et là, je mets présentation générale. Donc, toutes les informations importantes à propos de vous. Auteur Camilla Morel, titre du roman La Traverse Rêve, nombre de mots ou de secs, comme vous voulez, genre et nature, donc duologie pour mon cas, mais ça peut être vraiment trilogie, saga de je sais pas combien de tomes ou même one shot. Donc ça, c'est pour ma première page et juste en dessous, j'ai la lettre d'intention. La lettre d'intention va différer des éditeurs, en fait. C'est ça que j'aime pas, en fait. Ce que j'aime le moins dans la soumission, c'est que tous les éditeurs ont une définition différente de pitch, synopsis et résumé court, résumé long. Donc, c'est vraiment confus, je trouve. Disons que j'aimerais mieux qu'ils s'entendent tous sur la même chose, mais c'est pas le cas. Donc, la lettre d'intention va vraiment varier d'un éditeur à l'autre et ça va être pareil pour toutes les autres sections. Mais perso, dans ma lettre d'intention typique, on va dire, je dis que mon roman raconte l'histoire de ta-ta-ti-ta-ta-ta et là, il y a comme un petit résumé, pas plus que 3 paragraphes, je dirais 10 lignes, mettons. Ensuite, je dis pourquoi j'ai écrit ce roman-là, c'est quoi que j'avais vraiment envie de traiter en l'écrivant. Et c'est pas juste une liste de thèmes que j'écris, en fait. Je dis vraiment c'est quoi les thèmes les plus importants pour moi, pourquoi j'ai voulu les traiter. Et c'est quoi, en fait, qui montre dans mon manuscrit. J'ai aussi mentionné que, par exemple, dans mon cas, des thématiques écologiques prendraient encore plus de place dans le tome 2. Et d'ailleurs, j'ai rementionné que le tome 2 était en cours d'écriture et que s'ils voulaient obtenir le synopsis, je serais ravie de leur fournir. Puis, il y a une petite présentation de moi, vraiment en quelques lignes, 3-4 lignes. J'écris depuis quand, qu'est-ce que je fais dans la vie, tout ça, pourquoi j'aime lire, pourquoi j'aime écrire. Vraiment des trucs que je considère pertinents. Je pense que si vous mettez juste que vous aimez lire et écrire depuis toujours, c'est pas le truc le plus pertinent et je pense que tous les auteurs vont le mettre. Donc essayez vraiment de taper dans votre unicité. Et j'ai réitéré que j'étais à leur disposition s'ils avaient des questions. Donc ça, c'est pour ma page 1. Page 2, j'ai mes coordonnées. Très important de ne pas oublier ça. Donc nom, prénom, adresse, courriel, où ils peuvent vous rejoindre. Faites pas de faute dans votre courriel. Et numéro de téléphone. Puis j'ai mis des liens vers mes réseaux. Donc j'ai mon site web, mon Instagram et mon podcast. Tout de suite après, j'ai le synopsis, donc la grosse partie du dossier de soumission. Pour ceux qui sont pas trop familiers avec le concept de synopsis, c'est vraiment un résumé plus long de votre roman qui dit tout ce qui se passe. Donc ayez pas peur de spoiler dans votre synopsis. C'est important en fait pour les éditeurs de savoir la fin. Si eux, ils préfèrent ne pas la savoir, ils vont juste pas lire, au pire. Mais en général, vraiment, faut mettre la fin. Et faut mettre tout ce qui se passe pour que l'éditeur sache vraiment de quoi ça parle, c'est quoi les thèmes, c'est quoi votre fil rouge surtout, et un peu c'est quoi les enjeux de l'histoire. Là, c'est sûr que je vais pas dire au complet comment j'ai fait mon synopsis et tout ça, c'est pas vraiment le but de l'épisode, mais perso, je dépasse pas 2 pages. J'ai réussi, c'est un miracle, malgré un manuscrit de 180 000 mots. C'est sûr que ça montre pas tout dans l'histoire, mais la difficulté, on va dire, d'écrire un synopsis, c'est de vraiment choisir les infos les plus importantes. Et dans mon cas, j'y ai été avec certaines de mes bascules, donc même pas toutes, pour vous dire. Et je pense que le plus important, c'est pas la beauté de vos phrases, mais que ça fasse pas liste de courses et qu'on voit un tout petit peu, votre style. Donc, il faut vraiment soigner cette partie-là du dossier de soumission. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un épisode de podcast complet là-dessus. Peut-être que je pourrais inviter d'autres personnes pour qu'on en parle tous ensemble. Vu que moi, j'ai juste fait un dossier, je suis pas forcément à l'aise de vous donner plein de conseils sur le synopsis en particulier. Mais voilà. Et là, après, tout ce qui est après, c'est des trucs que j'ai pas mis dans tous mes dossiers. Mais il y avait certaines ME qui demandaient toutes les infos possibles sur votre manuscrit, vous pouvez nous les donner. Donc, si vous avez des mots-clés, si vous avez des références, donc qu'est-ce qui vous a inspiré, tout ça. Et là, moi, je m'en suis donné à cœur joie. Donc, quand on a fait la formation LICOR, ils nous font faire un très long dossier avec tout ça. Donc, j'avais déjà mes mots-clés, déjà mes références, déjà mon argumentaire, déjà plus d'informations sur le livre et tout ça. Donc, j'ai juste été chercher ça, j'ai ajusté un petit peu et c'était cool. J'aime beaucoup mettre le plus d'infos possible sur mon roman. Donc, ça m'a fait plaisir de pouvoir soumettre un dossier comme ça à certaines ME. Mais quand on fait la formation LICOR, ils nous spécifient bien que ce dossier-là qu'ils nous font faire, c'est pas... c'est pas vraiment un dossier type, mais ils nous en font faire plus pour qu'on soit prêt à d'autres éventualités. Au cas où on pitch notre roman, ce genre d'exercice peut beaucoup aider. Donc, j'ai utilisé ça. Alors, en premier, dans ma partie 3, j'ai mes références. Donc, c'est vraiment quoi les œuvres qui m'ont inspirée. J'ai des mots-clés, donc magie, romance, guerre, désinformation, science-fantasy, vengeance, manipulation, acceptation de soi, dilemme impossible, famille, trahison, dirigeable, rêve, psyché. Ensuite, j'ai un argumentaire. Donc, ce que j'ai mis là-dedans, c'est que j'ai utilisé tel ou tel schéma narratif. J'ai deux points de vue de protagonistes complexes à l'évolution remarquable. J'ai une histoire d'émancipation, d'acceptation de soi, etc., etc. Là-dessus, j'ai fait court quand même, donc j'ai mis 3-4 points. Et après, comme certaines ME demandaient genre toutes les informations qu'on pouvait mettre, j'ai mis des liens vers mes moodboards, vers la page roman sur mon site web, vers un post que j'avais fait sur Instagram qui s'appelle « Si mes personnages avaient un compte Instagram » et j'ai même mis un book trailer pitch en lien. Donc j'ai mis pas mal de liens pour qu'ils puissent aller voir ça si ça leur tente. J'ai aussi mis une page dans laquelle on plonge dans mon univers, donc avec un très beau fond qui rappelle la traverse rêve, et j'ai mis les illustrations que j'ai commandées, donc celles commandées à Meta Art, et j'ai mis celles que ma bêta lectrice Astrid, coucou Astrid, a fait pour moi, et c'est trop beau. Donc j'étais très contente de mettre ça dans le dossier, je pense que ça peut être intéressant pour certains éditeurs aussi. Et pour finir, dans certains dossiers, pas tous, donc j'essayais de sonder un peu qu'est-ce que l'éditeur voulait vraiment à chaque fois, j'ai mis 3 pages complètes de commentaires de personnes qui me disaient qu'ils avaient aimé mon début sur Wattpad ou qu'ils voulaient vraiment la suite. En gros, j'ai comme essayé de prouver que mon livre était attendu. Donc ça, je sais que ça peut être un peu controversé comme façon de faire, mais je trouvais que c'était intéressant et important de montrer vraiment que ce livre-là est attendu. C'est clair qu'ils ne me prendront pas mon manuscrit juste à cause de ça, mais voilà, je sais que certains auteurs l'ont fait et ont fini par être acceptés en argumentant un peu par rapport à leur roman, tout ça, par rapport au fait qu'il y a une communauté derrière aussi. Alors j'ai décidé de faire ça. Clairement, là, c'est 3 pages, donc les éditeurs vont pas lire tout ça, mais la raison pour laquelle j'en ai mis beaucoup, c'est parce que je me dis que comme ça, on a comme la preuve que c'est pas juste mes amis qui m'envoient ce genre de messages trop adorables. Donc, merci d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour tous ces messages-là d'encouragement qui me disent que vous avez hâte en fait, que vous êtes hypés par mon roman et tout ça. Ça fait vraiment plaisir et quand je les ai recueillis pour faire mon dossier, ben ça m'a beaucoup encouragée et ça m'a comme mis du baume au cœur. Alors je vous en suis très reconnaissante. Alors c'est tout pour mon dossier de soumission. J'espère que ce podcast vous aura aidé. C'est sûr que là c'est un outil audio, donc ça va peut-être pas être hyper parlant pour tout le monde si vous êtes visuel. En tout cas, j'espère que ça a répondu à la majorité de vos questions. Je prends juste un dernier petit 2 minutes pour répondre à celles que vous m'avez envoyées quand je vous ai demandé si vous en aviez sur Instagram. Alors, est-ce que tu as joué très tradi ou est-ce que tu as tenté un peu d'originalité, mood board, art et tout? Moi, je l'ai joué traditionnel en général dans le sens que mes premières pages sont vraiment comme normales, on va dire. Donc, c'est vraiment juste du texte sur une feuille blanche. Mais à la fin, j'y ai vraiment été avec, comme je vous ai dit, les illustrations avec un fond, typographie qui représente mon roman et que j'ai choisi pour le promouvoir jusqu'à maintenant, ce genre de choses-là. Donc, je dirais un mix des deux et c'est sûr que je pense que c'est moins traditionnel aussi d'envoyer les liens vers tous les posts dont je vous ai parlé, donc book trailer, tout ça. À part ça, on m'a demandé comment as-tu procédé pour protéger ton manuscrit? Moi, je considère pas que c'est à cette étape-là que je devrais plus protéger mon manuscrit qu'à une autre. Je pense pas que les vols de manuscrits, c'est très fréquent ou même que ça existe pas dans les maisons d'édition, en fait. Un truc qu'on m'a dit qui protégeait mon manuscrit, c'est le fait de me l'envoyer par mail et moi, je m'envoie mon manuscrit par mail pendant son avancée depuis jour 1. Donc, depuis que j'ai commencé à écrire le premier jet, je m'envoie mon avancée. Comme ça me fait un backup de plus, en plus de clé USB, ordinateur et OneDrive. Donc, ça fait comme une protection. C'est comme prouver que c'est à moi parce que je me l'envoie non-stop et il y a tout le temps une avancée dessus. Et autre chose, ben, je parle de mon roman depuis des mois, depuis plus d'un an. Donc, je pense que c'est assez clair qu'il est à moi et que ça se verrait s'il se faisait voler. Moi, c'est vraiment pas une peur que j'ai, surtout vis-à-vis des ME. Donc, j'ai pas pris d'action légale, on va dire. Donc, je serais pas la mieux placée pour répondre à cette question-là. Et on m'a aussi demandé combien de relances j'ai fait et à quelle fréquence. On peut pas parler de relances dans mon cas pour l'instant. Pour revenir sur mes soumissions, là j'ai dit que j'ai fait une vague d'envoi, c'est pas 100% vrai dans le sens que j'ai envoyé pour la première fois le 10 septembre à 4 maisons d'édition. Au départ, je voulais juste envoyer aux 2 maisons d'édition avec qui j'avais eu un contact et qui voulaient mon manuscrit une fois qu'il serait terminé. Donc, celle qui m'a déjà refusé et une autre ME pour qui j'ai pas de réponse en ce moment. Puis, j'ai envoyé à 2 autres ME, mais ça, c'était vraiment un peu improvisé, là. J'avais juste envie comme de tester 2 autres ME pour voir un peu comment ça fonctionnait, les soumissions. Et de ces 2 ME-là à qui j'ai soumis traditionnellement, en fait, j'ai eu un non à cause de la taille et l'autre, j'ai pas eu de réponse. Mais là, ça fait juste 2 mois. Donc 2 mois, c'est vraiment pas assez long selon moi pour faire une relance. Surtout que la majorité des ME, ça va vraiment être 3, 4 mois, 6 mois parfois. Moi, le cas où je ferai une relance, c'est où la maison d'édition dit sur son site on devrait vous répondre en 3 à 6 mois. Si après 6 mois, j'ai pas de reçu de réponse et que sur le site, vraiment, ils disent noir sur blanc qu'ils devraient répondre et qu'ils essayent de répondre à tout le monde, à ce moment-là, je fais une relance, je pense. En tout cas, c'est ce que je prévois. Mais là, c'est trop tôt pour faire une relance, surtout pour ma 2e vague d'envoi que j'ai fait seulement le 1er novembre. Et là, à l'heure où j'enregistre l'épisode, on est le 14, donc ça fait 2 semaines. Ça n'aurait pas lieu d'être de faire une relance après 2 semaines, selon moi. Et la 2e partie de la question, à quelle fréquence je relancerai pas plus d'une fois une maison d'édition de mon côté? Peut-être que d'autres auteurs vont vous dire autre chose. Moi, c'est comme ça que je le vois, mais comme je vous dis, c'est juste mes 2 premières vagues d'envoi, donc je suis pas non plus experte en soumission. Alors voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute et j'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous souhaite que vos projets se portent bien et que vous aussi. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou à me contacter sur Instagram pour en discuter. Je poste là-bas très régulièrement et vous pourrez y retrouver du contenu sur l'écriture, la productivité, la lecture et la motivation. Nous nous retrouverons pour un nouvel épisode très bientôt. Jusque-là, j'espère que vous prendrez du plaisir à écrire pour vous.